Politique de la science, politique de la conscience.
Bernard Stiegler, vous parliez la dernière fois d'une écologie de la conscience, d'une écologie politique de la conscience, on pourrait dire, et vous distinguiez, disons, parmi les concepts fondamentaux d'une telle écologie, le couple d'opposés synchronique, diachronique, ou plus exactement synchronisation, diachronisation. Il semblait à vous entendre que la synchronisation des consciences elles-mêmes soit très étroitement solidaire d'un processus plus général, qu'on peut observer à l'échelle des sociétés du monde entier, qui est un processus d'uniformisation des comportements, et précisément, plus précisément des comportements de consommation. Alors, il y aurait une objection qu'on serait tenté de vous faire immédiatement, qui serait d'interroger en amont la réalité sociologique de cette uniformisation. Est-ce que réellement, et notamment à propos des objets temporels, est-ce que réellement on assiste à une uniformisation des modes de consommation des objets temporels? On pourrait vous dire que justement, la consommation se dirige de plus en plus vers un mode de fonctionnement à la carte, individualisé, taillé sur mesure pour les utilisateurs. Je pense à Internet, je pense à la segmentation des marchés de plus en plus grande, sur les téléphones portables qui ont chacun leur sonnerie individualisée, etc. Vous faisiez vous-même d'une certaine façon l'objection suivante. Vous disiez, c'est bien évident que on n'écoute pas tous de la même façon, avec le même état de concentration, une émission de télévision ou de radio.
Il faut distinguer justement ces deux exemples. Si on écoute, par exemple, une sonate ou un quatuor de Beethoven, chacun d'entre nous, principe, non seulement l'écoute singulièrement, mais chacun d'entre nous, à chaque fois qu'il l'écoute, l'écoute à nouveau d'une manière singulière. Cette diversité-là n'est pas du tout la même chose, à mon avis, que la diversité des sonneries de téléphone que l'on nous propose en option, comme on dit. Précisément, ce qu'essaye de faire aujourd'hui l'organisation du marché, pour des raisons tout à fait connues sur le plan économique, c'est que gagner de l'argent dans le monde industriel, c'est faire des économies d'échelle. Ce qu'essaye donc de faire l'industrie, c'est d'investir tous les domaines de la vie, absolument tous, les loisirs, l'éducation, bien au-delà maintenant des biens dits de consommation matérielle, de prendre en charge tous les moments de l'existence individuelle pour produire ce que Rifkin appelle une lifetime value et pour essayer de standardiser tous les comportements, y compris en les optionnalisant. Or, aujourd'hui, Internet, comment est-ce qu'il est vu? Comme un système pour produire ce que j'ai appelé, dans un autre contexte, de l'hypersegmentation de marché, pour faire en sorte que tous les comportements, y compris les plus singuliers, soient anticipables, et donc ne soient plus des comportements singuliers, mais des comportements particuliers. Ce qui est tout à fait différent. La libido dont je parlais précédemment est absolument indissociable de la singularité, et non pas de la particularité. La question de l'hypersegmentation, c'est la substitution précisément de la singularité de mon mode de vie unique, qui ressemble à personne d'autre, substitution à cela par un comportement particulier qui, lui, fait partie d'une liste profilable et qui s'inscrit dans ce qu'on appelle du profilage, par exemple, du profilage utilisateur. Vous savez bien que sur Internet, par exemple, si on veut exister sur Internet, si on veut faire une page web ou un site Internet, ce qui est important, c'est que le site ou la page web soit consulté. Comment est-ce que on fait pour qu'il soit consulté ? On doit être référencé. Et pour être référencé, il faut adopter des index, des systèmes de description de contenu, des référencements qui sont standards et industriels. Donc il faut anticiper dans sa production individuelle les conditions de sélection par le système rétentionnel industriel. Je pense qu'en effet, la question de l'uniformisation n'est pas du tout intéressante en tant que telle. C'est un fait, l'uniformisation. C'est un fait que, par exemple, Mao a fait adopter aux Chinois une espèce d'uniforme. L'uniformisation, on la dénonce toujours parce qu'elle renvoie à l'uniforme. L'uniforme est une espèce de d'aliénation sociale par, disons, une imposition plus ou moins coercitive d'un certain type de comportement qui conduit à la bêtise ou à la souffrance. L'uniformisation, ce n'est pas forcément que ça. À partir du moment où, par exemple, l'alphabet permet de décrire de manière uniforme une très grande variété d'idiomes, il rend possible entre ces idiomes des échanges qui vont intensifier la teneur idiomatique de ces idiomes, tout en en détruisant certains, parce que le développement de l'alphabet a quand même conduit, effectivement, à une très sensible liquidation de diversité idiomatique au niveau des dialectes grecs, par exemple. Mais en même temps, cette uniformisation par l'alphabet du niveau linguistique a permis une très forte diversification au niveau des individus. C'est-à-dire que les idiomes tribaux ont disparu, avec le développement de grandes langues véhiculaires, comme la langue des Athéniens. Mais en même temps, les individus parlants ont pu affirmer leur singularité dans la nouvelle manière de parler qui passait par le rapport lettré au langage. Donc, l'uniformisation n'est pas forcément en soi une mauvaise chose. Là, nous ne sommes pas simplement dans l'uniformisation d'un certain nombre d'éléments de vie qui peuvent engendrer par ailleurs des processus de diversification. Nous sommes, je crois, arrivés aux limites même du processus d'homogénéisation. Le deuxième point que je voulais préciser aussi, c'est que pour moi, la synchronisation n'est pas du tout en soi une mauvaise chose. Non seulement elle n'est pas une mauvaise chose, mais elle est absolument indispensable. Pour qu'une société soit une société, il faut qu'il y ait des moments de synchronie. Et plus que des moments de synchronie. Pour que nous puissions parler ensemble, par exemple, il faut qu'il y ait un horizon synchronique de la langue, comme Ferdinand de Saussure l'a expliqué. C'est-à-dire qu'il fait que deux locuteurs qui parlent chacun différemment, parce que sinon ils n'auraient rien à se dire, pour que deux locuteurs puissent se parler, donc s'échanger leur diachronie, si j'ose dire. Il faut qu'ils aient un terrain synchronique d'échange. Le problème, ça n'est pas la synchronie en soi, c'est la décomposition du synchronique et du diachronique. Un bon idiome, par exemple, c'est un idiome qui articule deux tendances, diachronique et synchronique, de manière à ce que elle crée à la fois un fort sentiment d'appartenance via des liens synchroniques puissants, mais que c'est la puissance de ces liens synchroniques soit tendue, si j'ose dire, par l'intensité diachronique qu'ils rendent possible, c'est-à-dire la capacité de singularité dont ils ouvrent l'espace de jeu. Aujourd'hui, on n'en est pas du tout là. Ce que j'essayais précisément de décrire comme une crise entre guillemets écologique de l'esprit, c'est que le contrôle industriel de la synchronie conduit au contraire à opposer le diachronique et le synchronique. C'est-à-dire, ou bien vous êtes synchronisable, mais en renonçant à votre diachronie, c'est-à-dire à votre singularité, et vous appartenez à la sphère de la consommation et de la, entre guillemets, modernité, ou bien vous ne l'êtes pas, et à ce moment-là, vous êtes marginalisé. Alors, c'est vrai qu'on pourrait m'objecter que dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des comportements qui s'approprient tous ces processus nouveaux, technologiques, et qui en même temps développent beaucoup de singularités. Alors là, j'inviterais les sociologues qui font ce genre de remarques, et qui sont souvent des remarques parfaitement justes et fondées, à simplement vérifier sur quelle masse de gens, enfin, à simplement vérifier quelle est la portée de leur observation et dans quelle catégorie de population ces observations sont bonnes. Parce que moi, ce que je crois, c'est que nous sommes dans une société qui est profondément fracturée, pour reprendre un terme qui fut à la mode dans la campagne présidentielle de 95. Je crois qu'en effet, nous vivons dans une société au sein de laquelle il y a deux mondes qui s'ignorent la plupart du temps royalement. Enfin, royalement, le terme n'est pas correct. qui s'ignorent terriblement, ils vont dire. Il y a le monde auquel j'appartiens par chance, auquel beaucoup des gens qui écoutent France Culture appartiennent, par chance pour eux, c'est pour ça qu'ils écoutent France Culture, qui est un monde qui n'a pas été encore ruiné mentalement. Des gens qui sont encore dans une culture des singularités. Il y a ces gens-là, puis il y a des gens innombrables qui vivent dans des conditions tout à fait différentes, dans des conditions de travail d'abord souvent très très aliénantes quand ils ont du travail, dans des environnements urbains totalement déstructurés, fruit de l'urbanisme fonctionnel qui a conduit à séparer l'habitation du commerce, le commerce du travail, etc., etc., qui sont des cibles de supermarchés, d'annonceurs publicitaires, de marchands de biens de consommation à option, de banques qui font des crédits, etc. Gens qui, eux, vivent dans un autre monde, qui est un monde immonde, c'est-à-dire une espèce de non-monde qui tend vers le non-monde. Je pense que, en effet, quand on fait des analyses sociologiques, je crois qu'il faut prendre en compte les deux mondes en question. Je pense qu'aujourd'hui, aucune analyse sociologique sérieuse ne peut être faite si elle... Bien évidemment, il y a entre ces deux mondes des nuances. Et certains d'entre nous appartenons aux deux mondes selon les endroits où nous sommes, ou les activités que nous avons, ou les moments de la journée. Mais je crois vraiment que notre société est de plus en plus clivée, et qu'il y a une partie très importante de la société qui a sombré déjà, profondément, dans l'hypersynchronisation, qui a perdu pour une très grande part l'estime de soi, et qui, évidemment, est au bord de l'explosion, parce que sa situation est proprement insupportable, culturellement d'abord insupportable, symboliquement insupportable. C'est ce que j'appelle le risque du diabolique. Ce que je crois, c'est que ce qui fait l'unité d'une société, c'est son dispositif symbolique. Jusqu'au XIXe siècle, le dispositif symbolique, il est le fruit de l'activité des clercs. Les clercs sont une catégorie de gens, que ce soit des religieux ou des laïcs, c'est-à-dire des intellectuels, des gens qui appartiennent au monde qui n'est pas directement pris dans la production et dans l'activité économique. Ce sont ceux qui produisent les symboles de l'appartenance collective, de constitution de ce que j'appelle un « nous ». Ce sont ceux qui produisent les horizons synchroniques forts, en tant qu'artistes, en tant qu'intellectuels, en tant que religieux, etc. Ou en tant que membres du pouvoir. Jusqu'au XIXe siècle, le monde des clercs est tout à fait distinct du monde de la production. Au XXe siècle, ces deux mondes se confondent. Les clercs sont absorbés par le monde de la production. Et c'est ce qui conduit à l'exploitation systématique de la production symbolique soumise intégralement aux critères du marché, c'est-à-dire à des critères purement immanents et utilitaires, calculables. À partir du moment où la production des symboles est réduite aux possibilités de production d'un effet par un calcul, et où donc le symbole doit être amortissable à court terme, parce que c'est ça que ça signifie, et où donc la production des symboles, c'est-à-dire des critères de sélection, puisque les symboles, c'est ce qui permet d'effectuer les sélections, est elle-même soumise à un archi-critère qui est la rentabilité à court terme, alors les symboles se renversent dans ce que j'appelle des diaboles. La diabole en soi, il ne faut pas la diaboliser d'ailleurs. La diabole, c'est ce qui produit la singularité individuelle. Donc la diabole est du côté du diachronique. Simplement, il y a un moment où les diaboles et les symboles se séparent complètement, quand il y a une décomposition du symbolique qui donc ne compose plus avec le diachronique, et à ce moment-là, ça produit ce que j'appelle le renversement des symboles en diabole, et ça produit, à proprement parler, une situation diabolique. C'est-à-dire que le symbole, loin de constituer un processus d'identification, de projection dans l'unité d'un nous, dans une synchronie accueillante et désirée, eh bien produit un processus de perte d'estime de soi et à ce moment-là d'atomisation sociale et finalement conduit à la guerre civile d'une manière ou d'une autre.
Est-ce que vous pensez que la politique culturelle, qu'une politique culturelle aurait un rôle à jouer dans ce paysage diabolique, puisqu'au fond l'enjeu est symbolique. Enfin, il faudrait une politique symbolique ou une politique des symboles.
Il faudrait d'abord relancer, je crois, un gros chantier qui est en soi philosophique, mais aussi politique en effet, de ce que j'appelle une nouvelle critique de la conscience. Au début du XXe siècle, en philosophie, on a dénoncé les philosophies de la conscience. En les assimilant à des philosophies de la maîtrise. On les a dénoncées à juste titre. Ça ne voulait pas dire, à mon avis du tout, qu'il s'agissait de renoncer à la conscience, mais de là, il s'agissait de la repenser profondément. La conscience, jusqu'à la fin du XIXe siècle, jusqu'à Nietzsche en gros, elle est pensée comme une sphère qui relève du spirituel en tant que non matériel, en tant qu'immatériel. Je crois pour ma part qu'au contraire, la conscience, en tant qu'elle est essentiellement constituée par le temps de la conscience, est constituée également par ce que j'appelle les rétentions tertiaires. Parce que finalement, ce que j'essaye de dire, si je remonte tout à fait au début de nos entretiens, c'est que ce qui fait que je suis qui je suis, c'est que j'hérite d'un passé que je n'ai pas vécu, d'un esprit qui me hante, qui est l'expérience de mes ancêtres, de mes prédécesseurs, ce qu'on appelle la culture. Et que cet héritage, il m'est rendu accessible via les rétentions tertiaires. Ça, depuis le néolithique, pas depuis le néolithique, depuis l'australopithèque dont j'avais parlé précédemment. Mais cette couche de rétention tertiaire qui est originaire, qui est constitutive de l'homme, à un moment donné, elle devient un champ d'exploitation industrielle systématique. Et à ce moment-là, elle ruine les processus conscientiels en tant que tels, c'est-à-dire singuliers, parce que la conscience, c'est un horizon de singularité diachronique, fondamentalement. Ça veut donc dire qu'il faut repenser profondément la condition matérielle de la conscience. Il y a une condition matérielle de la conscience. Moi, je suis à la fois un matérialiste, parce que je dis que la conscience est constituée par la matière, et un spiritualiste, parce que je dis que la matière supporte des esprits qui ne se réduisent pas à la matière. Donc, je fais un matérialisme spirituel, ou un spiritualisme matérialiste. Et j'en appelle à une repensée profonde de ce que c'est que la conscience, donc à une nouvelle critique de la conscience, qui refonderait effectivement un projet politique. Finalement, Kant, et avant lui Rousseau, ou Diderot, ou Condorcet, ce sont des gens qui ont dit les Lumières, c'est-à-dire le discours sur la conscience, parce que c'est ça les Lumières, sont la condition d'une révolution politique. Révolution politique ne voulant pas dire dans ma tête nécessairement décapiter les gens, hein. Ça ne veut pas dire nécessairement mettre la société à feu et à sang. Ça veut dire poser qu'une époque est révolue, qu'il faut passer à autre chose. Nous devons passer à autre chose, à d'autres modes de pensée qui n'opposent plus, par exemple, le matériel et le spirituel, qui n'opposent plus le diachronique et le synchronique, mais qui réévaluent très en profondeur les grands concepts hérités de la philosophie, non pas pour les abandonner, mais pour les recritiquer au regard de tout ce que les questions liées au développement de la technoscience au XXe siècle ont apporté comme problème nouveau et comme hypothèse de travail nouvelle. J'ai parlé de la révolution industrielle tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que la révolution industrielle? C'est notamment un nouveau rapport entre la science et la technique. Tout à fait au début de nos entretiens, j'avais posé que la philosophie comme science s'opposait à la technique. Et c'est une vérité très générale que depuis Platon jusqu'aux environs du XVIIIe siècle, la science et la technique sont non seulement séparées, mais franchement opposées. Or, cette situation change à la fin du XVIIIe siècle, avec la révolution industrielle qui commence en Angleterre. Tout à coup, la science va s'associer à la technique pour les besoins de l'industrie, et elle va d'ailleurs profondément changer de sens. D'une science qui avait pour ambition de dire l'être des choses, c'est-à-dire leur identité, leur essence, leur stabilité, on va passer à une science qui cherche à explorer les possibilités de devenir des choses, donc qui s'intéresse beaucoup moins au réel qu'au possible, et beaucoup moins à l'être qu'au devenir. Ça signifie que la technique et la science s'associent au lieu de s'opposer, mais ça signifie aussi, et ça c'est très important, que tout à coup la science devient une espèce de science-fiction. Cette situation-là est un bouleversement total par rapport au cadre conceptuel avec lequel nous avons pu penser la science, mais aussi la politique, mais aussi l'esthétique, le religieux, entre Platon et, disons, Emmanuel Kant. On n'a pas véritablement réévalué ce que signifie la technoscientifisation de la science. On n'a pas mesuré à quel point la science, aujourd'hui, est engagée dans le monde, dans les processus de transformation du monde, et loin d'être simplement une objectivation neutre des processus, est un acteur de ces processus. À cet égard, on ne comprend rien à ce qui se passe, par exemple, autour des OGM, et autour des réactions, par exemple, en France, de la Confédération paysanne, quand on condamne les agriculteurs qui ont participé à ces actions qui effectivement ressemblent à des jacqueries et qui ont quelque chose d'un peu inquiétant, mais on ne comprend rien quand on les qualifie, comme a cru bon de le faire Dominique Lecourt, de barbares ou de vandales. De vandales, ils les appelaient des vandales. Bien sûr qu'ils ont des comportements qui ressemblent à des comportements de vandales. Mais en fait, ils dénoncent des processus qui se produisent sans que on ait évalué le changement de sens de ce que c'est que la science à partir du moment où elle est essentiellement portée par des finalités exclusivement industrielles. Et c'est ce qui se produit avec la production, par exemple, de plantes transgéniques, avec les organismes génétiquement modifiés ou avec le clonage humain. On ne peut pas ignorer que la sélection parmi les possibles, en quoi consiste le développement techno-industriel, car c'est ça qui se produit. Aujourd'hui, la science qui n'explore plus l'être, mais les possibles, décide, de manière unilatérale, de sélectionner parmi tous ces possibles. Par exemple, les possibles de l'évolution génétique du vivant. On ne peut pas ignorer que ces critères de sélection parmi les possibles n'ont rien de scientifique. Ils sont purement économiques et capitalistiques. Et on ne peut pas donc simplement qualifier de vandale Monsieur José Bové, et lui faire 14 mois de prison. On ne peut pas le qualifier de vandale sous prétexte qu'il s'oppose à cette situation où nous avançons de manière aveugle. Il a raison de dénoncer cette situation. Il a peut-être tout à fait tort de le faire en s'attaquant à des laboratoires. Ça, je le condamne. En même temps, je ne peux pas ignorer qu'il le fait parce qu'il sait qu'il faut exister sur les médias pour être sélectionné et que malheureusement, il est obligé par le mode de fonctionnement des médias de provoquer des comportements sensationnels pour pouvoir exister et se faire entendre. Donc je pense qu'il y a une véritable révolution épistémologique, philosophique, scientifique et politique à faire dans nos esprits. C'est ce que j'appelle aussi la première démarche de l'écologie de l'esprit, pour tenir compte de toute la place que prend la technique aujourd'hui dans tous les domaines, que ce soit dans l'exploitation de la matière première de nos temps de conscience par les industries culturelles ou dans l'exploitation des molécules biologiques qui sont finalement là aussi des matériaux mnémotechniques. C'est-à-dire qu'on transforme aujourd'hui le vivant en une espèce de matériel mnémotechnique comme on transforme les consciences en une marchandise exploitable par le grand capitalisme.